Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain ce soir. Jusqu'où pousser l'exemplarité en politique ? La politique étant devenue en grande partie une affaire d'image, deux d'entre elles ont chahuté le pouvoir exécutif en fin de semaine dernière. La première, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, repéré par la presse People sur un dance floor à la veille d'une mobilisation des Gilets jaunes qui allait s'avérer particulièrement violente. La deuxième, celle du couple présidentiel, en tenue de sport d'hiver sur un télésiège dans une station pyrénéenne, quand au même moment les forces de l'ordre en décousent avec les Black Blocs. Voilà qui peut paraître assez anecdotique au regard de la crise politique et sociale que traverse le pays, mais c'est justement du fait de cette crise que ces images ont eu du mal à passer. L'opposition notamment ne se privant pas d'en faire état pour accuser le gouvernement de ne pas être au travail. Cette polémique illustre l'exigence à laquelle sont soumis ceux qui exercent le pouvoir dans un monde où l'hypermédiatisation, souvent volontaire d'ailleurs, gomme les frontières entre ce qui relève de la vie publique et ce qui appartient à la vie privée. L'exercice de la fonction politique est un exercice à temps plein. Il suppose une apparence d'exemplarité à défaut d'une exemplarité réelle. Alors jusqu'où pousser l'exemplarité en politique ? C'est la discussion du soir en compagnie de deux des membres de notre club. Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir Hervé Gardette.
Professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Média TV. Et notre invitée ce soir, Hélène Leuillet, bonsoir.
Bonsoir Hervé Gardette.
Vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous enseignez la philosophie politique et éthique à la Sorbonne Université. Je renvoie à votre dernier ouvrage que vous avez publié en 2017 chez Albin Michel.
C'est ça.
Tu haïras ton prochain comme toi-même. Alors je vais commencer avec vous et peut-être à faire un petit travail de définition. L'exemplarité, qu'est-ce que ça signifie pour vous, Hélène Leuillet, en particulier l'exemplarité en politique, est-ce que ça signifie être irréprochable ?
Non, pas du tout. Je pense pas qu'il faille voir l'exemplarité en politique de la même manière que l'exemplarité ordinaire. Enfin, il faut pas la voir, je pense, du point de vue de la morale ordinaire, comme en raisonnement moralisant. Ce qui choque l'opinion, me semble-t-il, dans les anecdotes que vous avez rappelées ou d'autres semblables, c'est que la personne se décale du rôle qu'elle remplit, de la place qu'elle occupe. Occuper une place publique, c'est pas rien. Je veux dire, pour tous, hein, il y a une différence entre notre vie privée et notre vie publique. Et on sait très bien que ça nous donne un peu des obligations, des devoirs, même envers nous-mêmes. Vous savez très bien, un jour ça va pas trop, mais on le dit pas, quoi. On est son rôle. Il y a un moment, on est son rôle. Alors quand on est à la tête de l'État, et qu'effectivement cet État en plus traverse une crise, on attend de la personne qu'elle soit public. Enfin, c'est ça l'exemplarité en politique, à mon avis, c'est simplement la logique de la représentation politique. C'est-à-dire que le rôle qu'on occupe, ça n'a pas à voir tant que ça avec la personne privée. La personne privée, elle occupe ce rôle, mais il y a un moment, c'est la responsabilité qui fait le rôle. Et là, ce qui choque, c'est qu'on voit effectivement la personne privée. Alors, bien sûr, on peut psychologiser un peu les choses, dire, bien sûr, mais c'est des hommes comme tout le monde, vous comprenez bien, quand même, Emmanuel Macron, après tout ce qu'il a subi, il a quand même le droit d'aller prendre l'air. D'ailleurs, on a appris, que c'est sa femme qui lui a fait la surprise et tout, sympa.
Moi, je ne savais même pas, voyez.
Voilà, enfin, moi, c'est ce que j'ai lu.
Il faut lire la presse People, Hervé.
Je ne suis pas allée le vérifier.
Je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis longtemps, c'est pour ça.
Voilà. Et je ne sais même plus où j'ai dit ça. Pour Castaner, c'est pareil. Bon, on dit, là, il a quand même le droit de faire sa vie. Mais en vérité, je pense que ce qui choque, c'est qu'ils ne sont plus là dans leur rôle de représentant. Et ce qu'on attend, c'est qu'ils représentent et qu'ils aient souci de la chose publique. Et ça, c'est vrai que c'est très exigeant. Mais bon, on veut occuper ce rôle, on veut l'occuper, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on l'occupe, ça oblige, je crois, à un certain nombre, sinon de sacrifices, ça paraît moralisant, mais de moins de discrétion.
Ouais. Est-ce que vous attendez la même chose, Géraldine Mühlmann et Aude Lancelin ? Géraldine Mühlmann, je commence avec vous.
Personnellement, je n'ai peut-être pas les critères les plus sévères. Je peux comprendre pas mal. Enfin, je pense que je peux comprendre deux, trois choses, relâchement d'un homme public. Mais là où, par contre, je vois assez vite une contradiction, je me souviens, ce que vous venez de dire m'y fait beaucoup penser. Je crois que c'était à Colombey les deux églises au moment d'une commémoration de la mort de De Gaulle, je crois. Emmanuel Macron a eu une formule très, comme il en a parfois, un peu franchement vieillotte, surtout dans la bouche d'un jeune président. Il a dit si les Français, comme disait De Gaulle, se tenaient un peu plus. Se tenaient.
C'est lui qui doit se tenir. Enfin, comment? Pas les Français. Oui, c'est lui qui doit se tenir.
Bon. Et en fait, ouais. C'est drôle parce que ce que vous venez de dire, ça m'a rappelé cette phrase qui d'abord est étonnante, quoi, comme formule, je veux dire. Et surtout, évidemment, que c'est ça qu'on lui renvoie à lui immédiatement lorsque on le voit au ski. Et en plus, je suis convaincue, mais ça c'est une pure intuition, qu'il a dû se dire, alors c'est peut-être son épouse, etc., que voilà, il allait dans une petite station des Hautes-Pyrénées avec laquelle il a un lien personnel. C'était pas Courchevel, c'était pas une station bling bling. Je suis presque certaine qu'il a dû se dire c'est modeste, c'est gentillet, ça mange pas de pain, c'est souriant, et donc il n'y aura pas de problème. Alors qu'en réalité, pour plein de Français, parce qu'il y a aussi ce problème social, c'est qu'aller faire du ski, c'est pas rien du tout.
Mais pour vous, c'est une erreur politique. C'est une erreur politique que de l'avoir fait alors qu'il est président de la République, ou ce serait une erreur de l'avoir fait à ce moment-là, ce moment si particulier du week-end dernier, où
les deux, parce que la politique c'est une affaire de moment, et donc on va y venir dans notre conversation. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de faute, si c'est le bon mot, sans un contexte politique. Et je pense qu'en vérité, la façon de s'insurger sur le plan un petit peu moral, raide, c'est presque toujours une manière de dire des choses politiques. En vérité, ce qui est reproché à nos hommes politiques, et dans l'affaire Castaner, c'est la même chose. Je veux dire, cette photo, elle circulait depuis un moment, et comme par hasard, ça sort après ce qui s'est passé samedi sur un mode beaucoup plus cristallisé, parce qu'en vérité, il y a un problème politique avec la gestion du ministère de l'Intérieur et la police. Les Français le sentent, et c'est là que ça sort. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Castaner en boîte, alors qu'en vérité, nous sommes un peuple assez cool quand même. Et ces histoires de couple, de sexualité, de ce qu'il fait après 22 heures dans une boîte, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en fichent. C'est politique quand ça sort.
Aude Lancelin.
Moi, je ne vais pas épiloguer sur le séjour au ski d'Emmanuel Macron, parce que j'ai une toute autre interprétation. Je pense que c'est une opération de com' qui a mal tourné, qui est partie dans le décor. Hein. Emmanuel Macron savait très bien que cet acte était particulièrement important pour les Gilets jaunes, que la mobilisation serait exceptionnelle. Par ailleurs, on savait depuis plusieurs jours des Black Blocs de toute l'Europe avaient appelé à se rendre sur les Champs-Élysées. Donc j'ai du mal à croire à l'escapade innocente au ski. Voilà. Vous voyez, là, il y a quelque chose. Bon, donc voilà.
Et quel pouvait être le message alors de cette communication
politique?
Tout
est sous contrôle, le président se détend et la page Gilets jaunes est déjà terminée. Voilà, on a vu ce qu'il en était, puisque dès demain, les militaires maintenant seront dans la rue. Pour revenir au cas de Christophe Castaner et de sa prestation en boîte de nuit, là, moi, je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, professionnel, factuel. Un poste de ministre de l'Intérieur exige une vigilance quasiment 24 heures sur 24. Moi, il se trouve que j'ai connu très bien un chef du service action de la DGSE française. Personnellement, lorsqu'il était en fonction, je ne l'ai jamais vu boire d'alcool, même dans un cadre privé, même au cours d'un week-end, parce que ce sont des gens qui, à tout moment, peuvent être amenés à prendre des décisions vitales pour la population française. Je vous rappelle que, au-delà de la crise politique des Gilets jaunes, nous sommes aussi sous menace terroriste, et que le spectacle que Christophe Castaner a offert ce soir-là était franchement inquiétant et lamentable. Et tout ça ne dépasse évidemment, il n'est pas question, la question n'est pas sa vie privée. La question, c'est est-ce que quelqu'un qui se conduit comme ça le soir d'un acte gilet jaune, où des gens sont incarcérés, où des gens sont mutilés, où ces hommes, les forces de l'ordre, sont en première ligne et apparemment sont soumis à de fortes cadences, de fortes pressions. Est-ce que tout ça est bien digne? Je ne crois pas.
Est-ce que vous diriez, du coup, les unes et les autres, que le niveau d'exemplarité qui est demandé aux politiques dépend aussi du poste qu'il occupe, du niveau dans lequel il se situe dans le pouvoir politique, Hélène Leuillet?
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, l'exigence publique, elle est plus grande, comme effectivement Gérald Milman l'a dit, dans les périodes de crise, comme Aude Lancelin vient de le rappeler, quand on occupe certains postes, oui, il y a une gradation. C'est en ça que le raisonnement n'est pas moralisant, ou bien que les discours moralisants sont des symptômes de ce qu'on sent bien, que la place n'est pas occupée. Parce que c'est ça, occuper une place, c'est aussi une fonction de sécurité en un sens pas sécuritaire, quoi. Je veux dire qu'effectivement, le rôle du pouvoir politique, c'est d'assurer la vie aussi, c'est de protéger en ce sens-là par l'esprit public. Il y a aussi un esprit public. Et ça demande que la personne qui occupe un poste, jamais très longtemps, enfin 2, 3 ans, quelques mois, eh bien, elle en prenne la mesure pour elle-même. Et c'est effectivement un exercice pour soi d'occuper un poste comme ça. Et donc, ça dépend effectivement quand on est à l'intérieur, aux finances. Mais moi, je pense, là, je suis pas d'accord avec vous, c'est que le chef de l'exécutif, il doit être exemplaire pour tous les autres, parce que c'est lui qui, in fine, prend les décisions les plus importantes et éventuellement les plus vitales.
C'est ce que j'allais vous rétorquer, ouais, Hélène Noyer, ouais. Quand vous dites qu'il doit être exemplaire pour lui-même, enfin pour ouais. lui-même ou pour elle-même s'il s'agit d'une, oui, s'il s'agit femme, d'une femme, mais ouais. aussi pour les gens qui le représentent, non ?
Aussi, absolument. C'est pour ça que la formule d'Emmanuel Macron à Colombey-les-Églises était bizarre, parce que les Français n'ont pas à se tenir particulièrement. Eux, ils sont représentés. C'est le représentant qui se tient. C'est la représentation qui a cette exigence-là. Être représenté, être représentant, c'est pas du tout à occuper la même place.
Être représenté, ça vous dit, comment dire, ça vous enlève toute notion d'exemplarité ?
Non, pas du tout, à son propre niveau. C'est bien, je veux dire, un enseignant, en général, il va pas faire cours de la même manière qu'il fait son jardin, par exemple, parce qu'on a tous, à un moment donné, un rôle public qui exige de nous quelque chose. Mais on est tous à la fois représentés et représentants. Mais par rapport aux politiques, on est représentés. Donc, le rapport public-privé se joue pas de la même manière. Effectivement, si vous et moi, on est filmés en boîte de nuit, ça fera, à mon avis, pas beaucoup de vagues.
Ouais,
je pense pas.
En plus, en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je ne vais plus en boîte de nuit. Jardine Munemal.
Moi, je pense que après les critères de comment ils doivent se tenir, ça c'est de la sociologie de base, et c'est vrai que ça varie selon les périodes historiques. Et donc, par exemple, on peut noter des paradoxes, parce que c'est jamais tout à fait cohérent à un peuple et une sociologie. Je pense qu'il y a encore 30 ans, l'image d'un président de la République faisant du jogging, c'était pas formidable. Vous voyez, non seulement maintenant c'est formidable, mais c'est médiatisé. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est formidable. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est valorisé. Et franchement, je vois personne qui y trouve un problème. Je me souviens qu'Alain Finkielkraut avait dit au début, quand on voyait Sarkozy faire du jogging, que ce côté le corps transpirant, etc., il trouvait pas ça formidable. Moi, j'ai trouvé que c'était courageux de sa part de le dire, parce qu'on était déjà dans une époque où en fait tout le monde trouve ça formidable de faire du sport et le montre, etc. Je me pose d'ailleurs la question de savoir s'il y avait une femme présidente de la République, si elle montrerait son corps sportif de la même manière. Je pense que ça fait partie des questions sociologiques qu'on peut se poser. Mais par exemple, il faut bien dire aussi qu'il y a un relâchement sur ces questions de sport, mais il y a un durcissement sur les questions un peu de sexualité. Nous sommes dans une période, toutes les études le disent, où il y a des choses très, très intéressantes qui se font, une vigilance autour du sexe, des rapports amoureux. En termes de domination, de violence, on a une jeunesse qui est hyper mobilisée. Et je trouve qu'il y a des choses vraiment formidables qu'on n'avait pas pendant la période de la libération sexuelle, où c'était pas forcément un sujet aussi préoccupant. Mais il faut aussi dire la vérité, il y a une petite touche morale qui revient. Moi, je vois bien chez mes étudiants, quand ils font des exposés sur des auteurs, que je leur fais faire les remarques sur la vie privée, sur s'ils couchent avec des gens qui ont des différences d'âge importantes avec eux, ou bien s'ils ont plusieurs partenaires. Enfin, on n'est pas dans une période très très relâchée sur cette question. Ça va peut-être bouger, c'est complexe, ça dépend des milieux. Mais il est possible aussi qu'il y ait de la norme morale plus grande. Alors évidemment, dans une période d'hyper-transparence de tout, avec l'Internet, les images qui circulent, ça a des effets démultipliés. Donc il faut aussi mettre cette question de l'exemplarité sous un regard sociologique, quoi. Il y a des critères qui bougent et qui ne sont pas faciles à manier aussi pour les hommes politiques.
Est-ce que vous faites aussi, vous, ce constat, Aude Lancelin, de modification des critères d'ordre moral? Est-ce que ça n'est pas aussi une forme de retour de bâton d'une hyper-médiatisation de la vie politique, avec la complicité, il faut bien le dire, quand même, d'une partie du personnel politique? Vous évoquiez, Géraldine Mühlmann, le fait de se faire filmer, par exemple, de se faire prendre en photo en train de faire du jogging. Ce ne sont pas des photos volées, ce sont des photos qui participent d'une communication. Et derrière, après, il y a cette peut-être difficulté à assumer le fait que l'ensemble de ces activités soient rendu public, parce que le public justement ne comprend pas forcément que certaines images puissent être tolérées et d'autres soient censées rester dans la sphère privée.
Moi, je pense que effectivement, enfin, je ne pense pas que ce soit un retour de l'ordre moral. Je pense que nous avons changé de nature de personnel politique. Hein. Bon, Géraldine faisait allusion à, j'imagine, à Nicolas Sarkozy faisant son jogging, chose qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Je vous rappelle que ça avait été un argument de campagne de François Hollande. Justement, un retour de l'exemplarité. Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire, avait-il dit pendant la campagne de 2012. Et on sait comment ça s'est terminé, à savoir par, une fois de plus, par des photos d'enclosures, des croissants à une heure assez tardive de la matinée, un casque de scooter qui lui a coûté très cher en termes d'image publique, qui lui a collé au basque quand même pendant des années, qui a un petit peu ruiné sa crédibilité. Voilà. Donc je pense qu'effectivement nous n'avons plus tout à fait, et ça c'est le propre de notre époque, le même personnel politique. Ce personnel politique n'a plus la même exigence, n'a plus ce que Orwell appelle la même common decency.
Ce qui veut dire
des sens communes, cette espèce de justement de sens de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas quand on a des responsabilités vis-à-vis des, pas seulement public mais aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa famille, etc. Donc je pense que Monsieur Castaner s'inscrit dans ce lignage là. Je mettrai à part la question d'Emmanuel Macron. Et là, je vais peut-être en venir un petit moment à un regard historique, c'est-à-dire que sur la situation dans laquelle on est. C'est l'historien du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, qui disait, pour résumer le rapport au pouvoir à cette époque-là, qui disait le roi doit être un concentré de toutes les vertus puisqu'il est un concentré de tous les pouvoirs. Le pouvoir oblige, le pouvoir oblige à la vertu, vertu pas privée bien entendu, vertu de justice, d'équité, de sens de la mesure, etc. Bon, alors vous allez me dire, mais oui, mais nous sommes en 5e République, nous ne sommes plus en royauté, effectivement. Mais le problème, c'est que, et précisément, on le voit je terminerai là-dessus, dans le cas d'Emmanuel Macron, il a un exercice. C'est lui-même qui l'a dit en début de mandat, jupitérien du pouvoir, quasiment un sens royal du pouvoir. Et logiquement, il y avait une attente énorme par rapport à cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le peuple se sent floué.
Il y a un décalage, Hélène Leuillet, entre ce qui est annoncé, la façon de pratiquer le pouvoir, alors qu'à Emmanuel Macron, mais dans un autre style, parce que c'était très différent, François Hollande, lui, voulait être un président normal. Vous avez rappelé un extrait de cette fameuse anaphore hein, pendant le débat présidentiel, Aude Lancelin, sur sa promesse d'être exemplaire. Sans doute, d'ailleurs, les politiques feraient mieux peut-être de ne pas promettre une exemplarité dont on sait très bien qu'elle est quasiment intenable, sauf exception, on pense évidemment, dans le cas de la politique française, au cas du général de Gaulle. Mais en tout cas, ce décalage entre une pratique du pouvoir et, comment dire, une façon de se comporter dans la vie plus quotidienne, disons.
Il y a un décalage et même, en fait, pour aller à la décharge des politiques, il y a même une attente contradictoire, en fait, qui leur est adressée. Hein. Vous savez, c'est ce que Richard Sennett appelle les tyrannies de l'intimité. C'est-à-dire que d'un côté, on leur demande de montrer leur intimité, d'être montré qu'ils sont comme tout le monde, de montrer qu'ils sont pas... qui ne sont pas fabriqués d'une autre étoffe que la nôtre. Ça les rend sympathiques, on attend des confidences, etc. Et puis de l'autre côté, on attend quand même qu'ils tiennent leur rôle public. Hein. Et donc, ils sont pris, hein, eux-mêmes, dans ce décalage, dans cette attente contradictoire qui cause un certain nombre de clashs à certains moments. Et effectivement, il y a un autre décalage, à mon avis, qui tient aussi à nos institutions. C'est-à-dire au fait que notre régime présidentiel porte effectivement à un exercice un peu monarchique du pouvoir. On l'a aussi reproché à François Mitterrand. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui porte, évidemment, à Sarkozy, à l'hyper-présidentialité. Et qui avait causé la réaction de Hollande aussi, je serais un président normal, mais ça lui est retombé dessus. Parce que s'il est un président normal, on ne le respecte pas plus que son collègue, son copain, etc. Donc, c'est pas possible d'être un président normal. Le président, c'est une place d'exception.
Mais il y a aussi des époques qui changent quand même, Hélène Le Hiez. C'est-à-dire, vous évoquez François Mitterrand sur la question de la vie privée. On n'était pas du tout dans la même façon, dans le même traitement. On a su après ce qu'il en était s'agissant de François Mitterrand, mais on pouvait dire aussi de la même chose de Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que la séparation, elle existait véritablement. En tout cas, il y avait un respect de cette
séparation. Absolument. Et je dois dire qu'on était presque dans le secret d'État classique avec François Mitterrand. Je veux dire, avec Giscard d'Estaing, peut-être encore un peu différent. Il était peut-être plus moderne que François Mitterrand. François Mitterrand, c'est le secret d'État classique, quand même. C'était un cas de raison d'État. Il y avait une enfant qui était menacée potentiellement si on révélait son existence. Donc, le service de l'État a caché cet enfant. C'est pas du tout la même chose que d'avoir, des secrétaires cachés qui ne respectent pas la différence du public et du privé et du public. Parce qu'il y a ce deuxième décalage. C'est aussi qu'effectivement, comme le rappelait Audelin, on est en République. Et qu'en République, dans une certaine mesure, l'exigence du public, elle est encore plus forte. Parce que c'est l'exigence de la vertu, comme le disait Montesquieu. La République, c'est le régime dont le ressort est la vertu. Et ça exige qu'il y ait quand même, des lois somptuaires, par exemple, qu'il y ait une certaine égalité des conditions. Et que, donc, on respecte encore plus, d'où la difficulté dans notre régime, quand il y a une dérive monarchique qu'à la fois on peut attendre, mais qui en même temps déçoit forcément, qui apparaît comme une trahison de l'idée républicaine.
On parle beaucoup depuis déjà quelques années, bien sûr, de la crise de la représentation. Est-ce qu'on pourrait dire que, est-ce que vous seriez d'accord pour dire les unes et les autres que ce manquement peut-être au devoir d'exemplarité, il explique aussi en partie cette crise de la représentation? Je vais changer un peu l'ordre. Audelin Selin, puis ensuite Géraldine Moneman.
Oui, alors jusqu'ici, on a surtout abordé la question du comportement privé et de sa compatibilité avec les responsabilités publiques, mais il y a quelque chose dans le domaine de l'exemplarité qu'on doit absolument aborder, me semble-t-il. C'est quand même celui de l'honnêteté. C'est quand même celui... si vous voulez, le problème, c'est que nous avons énormément d'affaires de corruption, nous avons énormément d'élus dans les dernières années, les 30 dernières années, je dirais, qui ont été mis en examen. À l'heure où l'on se parle, il n'y a pas un seul élu de la République française qui soit en prison, emprisonné. Aujourd'hui, depuis 4 mois, il se trouve qu'on met en prison, en comparution immédiate, pour 4 mois, 6 mois, voire 2 ans, des gens pour des faits, par ailleurs, parfois pour un jet de pavé, parfois pour des posts diffusés sur Facebook, et qu'à l'heure où on se parle, lorsqu'on est un élu de la République, même si, comme monsieur, je prends l'exemple de monsieur Cahuzac, qui est revenu dans l'actualité depuis quelques jours, même si on a fraudé massivement le fisc, eh bien, on peut s'en tirer avec un aménagement de peine, un bracelet électronique, etc. Et depuis quelques jours, par exemple, les certains médias, nous font pleurer sur le sort de Jérôme Cahuzac, qu'on n'autorise pas à redevenir médecin généraliste en Corse, dans un village, etc. Bon. Si vous voulez, le problème dans des cas comme ça, c'est la rupture de l'égalité républicaine par rapport à la justice. Qu'un élu de la République soit plus protégé des foudres de la justice qu'un simple citoyen, qu'un simple justiciable, j'allais dire, ça, c'est très grave. Pour notre système politique.
Et pourtant, il y a eu des lois qui ont été votées ces dernières années. Qui touchait spécifiquement justement à la fonction politique, des lois de moralisation de la vie politique. Non, manifestement, ce que vous dites, Audelin Selin, c'est que ça n'a pas forcément changé grand-chose. Géraldine Moneman.
Mais c'est aussi que, il faut quand même dire cela aussi, c'est que c'est en un sens dans l'autre sens c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est parce qu'il y a une crise de la représentation et une crise de l'action publique, de l'action politique, qu'il y a cette visibilité permanente sur le comportement, l'exemplarité, etc.
Je demeure convaincue
que si on avait des, surtout en France, que si on avait des politiques qui parvenaient à mener des actions, allez, je vais employer un mot de l'humanisme civique de Machiavel, glorieuse, une forme de gloire. Pour de bon, hein, c'est-à-dire quelque chose dans quoi le peuple se reconnaîtrait vraiment, le sentiment d'une marge de manœuvre réelle pour le politique, par exemple en politique économique où il y a pratiquement pas de choix en ce moment. Enfin, tout le monde dit que c'était pas réaliste de faire autre chose que monter les impôts, baisser les dépenses publiques, faire des dosages de genre. On a l'impression qu'il n'y a plus de marge, qu'il n'y a plus d'action, de commencement, comme disait Hannah Arendt. L'action, c'est commencer des choses, et dans la visibilité, peut-être dans la gloire et dans la mémoire de ce qu'on a commencé. Eh bien, je crois que s'il y avait une grandeur, encore ces mots hein, qu'on a du mal à dire aujourd'hui, mais quand on les dit, on voit bien que quelque chose manque. Je suis convaincue que les petits moments privés de relâchement, pas très glorieux, et j'irai même plus loin. Je pense que les petites corruptions pas très nobles, qui ont parfois accompagné les grands hommes, passerait encore. Je crois quand même que la focalisation sur le comportement et l'exemplarité, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine public, et je fais une différence, je suis tout à fait d'accord avec Aude Lancelin, que les vertus d'honnêteté publique et ça sont infiniment plus graves. Et particulièrement en France, qui quand même est un peuple qui se moralise, mais qui est quand même assez cool hein, sur les maîtresses. Enfin, franchement, même François Hollande, d'accord, ça lui a pas fait du bien, le casque et les croissants, mais en vérité, écoutez, c'est la première fois qu'on a un président qui n'était pas marié, qui avait une maîtresse qui n'était pas à l'Élysée, mais on lui a fichu une paix royale quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il n'a pas été réélu. On est quand même très détendu dans ce pays par rapport à d'autres peuples. Eh bien, je suis convaincue qu'on le serait tout à fait, et même sur des petites imperfections, des choses pas jolies, si on avait cette grandeur politique. Donc vous avez raison là aussi, Aude Lancelin, de dire que les politiques ont changé, mais c'est aussi la politique qui a changé. On ne sait plus, il n'y a plus cette place. Et je crois que l'exemplarité, la question de l'exemplarité, même chez les politiques qui passent leur temps à parler de ça, à se tenir et la moralisation et que je te fais une loi, une deuxième loi, c'est une manière d'occuper un espace de l'action qu'ils n'arrivent pas du tout à occuper d'une autre manière. C'est une frustration qui s'exprime aussi sur le plan politique. C'est au fond un faux sujet moral et un vrai sujet politique.
Hélène Leuillet.
Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que l'une, la crise de l'exemplarité, est cause de l'autre, la crise de la représentation, ou dans quel sens c'est. Je pense que c'est deux aspects du même phénomène. C'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'on n'est ramené qu'à soi. Regardez, si vous prenez l'affaire du cardinal Barbarin, je veux dire, en refusant sa démission, le pape dit finalement il ne représente que lui-même. Alors que représenter, c'est toujours représenter les autres. Le pouvoir, il est symbolique. Il y a un rapport de soi et de l'autre. Et c'est ça qui ne marche pas aujourd'hui. On pense que effectivement, on ne représente que soi-même. On a un rapport un peu chosiste à soi-même. Et donc, ça interdit toute représentation et, à mon avis, aussi toute exemplarité par la même raison. Parce que, on est soi-même. Donc, l'authenticité, c'est de se montrer tel qu'on est. C'est d'ailleurs un discours qu'on entend aussi à propos des politiques. Or, non, on n'est pas tel qu'on est. Et d'ailleurs, bon, aussi, quand Machiavel, je rebondis sur ce que vous disiez, analyse comment à Rome les choses ont commencé à aller mal, ben, effectivement, il montre que la chose publique, elle n'existe plus, que c'est là qu'on a commencé à avoir des affaires privées, des scandales, etc. C'est-à-dire que les scandales, ce sont aussi quand même des révélateurs de ce que le pouvoir ne fonctionne plus sur le plan symbolique. Il est plus ce lieu vide dont parlait Claude Lefort que les personnes occupent et que les personnes ont le sentiment qu'elles sont au service de ce rôle.
Hein, et peut-être, Hélène Leuillet, révélateur aussi, si je suis votre logique, de l'état de la société, puisque vous dites finalement on ne représente que soi-même, on pourrait l'appliquer finalement à l'ensemble des individus d'une société. Est-ce que c'est pas aussi un des signes de l'individualisme qui est plus fort et d'une perte du sens commun?
C'est ça, c'est que la perte du sens commun, elle est plus générale. C'est vrai que moi je pense qu'il faudrait pas donner le sentiment que on tape sur les politiques en disant attendez, vite, des bons hommes politiques qui nous sauvent un peu de la crise dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous aussi, comme représentés, nous sommes responsables, dans une certaine mesure, de cette crise, parce que nous ne savons plus faire fonctionner ça. Nous ne savons plus faire fonctionner le symbole, effectivement, et que nous sommes pris, du coup, dans un individualisme qui interdit toute chose commune, alors que la chose commune, on voit bien qu'elle est vitale au niveau du politique. C'est-à-dire que si le politique est trop sourd, même à ce qui émane du peuple, là, comme on en a le sentiment aujourd'hui, eh bien, c'est la dimension commune qui est dissoute, parce qu'on a le sentiment que le politique ne recouvre plus que des intérêts privés, d'intérêts de carrière. Et ça, c'est dommageable.
Est-ce que, du coup, le personnel politique ne se contente pas, sans le faire sciemment et consciemment, de représenter aussi ce que nous sommes? Enfin, est-ce que nous n'avons pas, les politiques que nous méritons, Aude Lancelin?
J'espère que non, si on regarde l'Assemblée nationale actuelle. Écoutez, non, oui, prenons l'Assemblée nationale actuelle. On voit bien qu'on a totalement changé de nature de personnel politique. Il s'agit de représentants pour la plupart du monde du business, des gens à qui on n'a pas inculqué. Le sens de l'État, le sens, parce que c'est quelque chose auquel je crois, le sens de l'intérêt général. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a pas une assemblée d'hommes libres. À mes yeux, on a malheureusement très souvent une assemblée de gens qui obéissent au boss, au patron de l'entreprise et qui sont réduits au rôle de pouce-bouton.
Mais est-ce que ça n'est pas quelque chose aussi justement de la société, de l'ancien, c'est-à-dire de se retrouver, si on suit ce que vous dites, avec une majorité parlementaire qui vient beaucoup alors de ce monde, comme vous le dites, du business et qui n'a pas été éduquée au sens de l'État, c'est-à-dire ça. Elle ne vient pas de nulle part non plus, cette classe politique-là.
Nous l'avons mise au pouvoir par le vote, même si on pourrait discuter des conditions dans lesquelles ça a été fait. Je pense au poids, notamment au poids des médias, qui étaient tout de même massivement derrière le candidat Emmanuel Macron. Oui, vous avez raison. D'une certaine façon, elle tend un miroir détestable à notre société. Et je pense que la crise que nous vivons actuellement est la résultante de ça. Je pense, d'ailleurs, je suis assez optimiste à cet égard, que elle va se dénouer de façon politique. Nous ne pouvons pas rester dans une situation de blocage pareille. Nous ne pouvons pas avoir une assemblée qui désormais représente si peu et si mal la réalité du peuple français. Un sondage tombé avant-hier, un sondage Via Voice, affirmait que 86% des Français aujourd'hui estimaient un changement de politique économique et sociale nécessaire à l'issue du grand débat lancé par Emmanuel Macron. Malheureusement, je ne suis pas sûre que le pouvoir actuel nous offrira ce virage. Vous voyez bien que je.
Je ne suis pas sûr que les pouvoirs précédents aient davantage réagi à de mauvais sondages.
Nous ne pouvons pas revenir à la situation politique antérieure. Ça ne se fera pas comme ça.
Géraldine Mühlmann.
Je pense que c'est d'autant plus troublant ce qui se passe que Emmanuel Macron, dans son discours, avait un rapport à la grandeur, à la question de la grandeur et de la gloire politique. Je pense que c'est quelqu'un qui a été travaillé par cette question, un petit peu comme Dominique de Villepin, si vous voulez, ça a habité son discours. Et à vrai dire, l'histoire de Jupiter, elle est sortie comme ça. Et la mise en scène, qui n'est pas en soi un mot péjoratif, il faut se mettre en scène aussi dans le pouvoir, de l'arrivée au Louvre, montrait qu'il était travaillé par cette question. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui a séduit pas mal de gens, une des choses qui a séduit pas mal de gens, parce que beaucoup de gens pensent que cette question de la grandeur, elle se pose. Mais beaucoup de gens aussi ont été peu précautionneux dans le rapport à cela, ne se sont pas dit, mais au fond, faut pas en parler, faut le faire. Enfin, moi, j'avoue que j'étais très gênée
par la mise en scène de ce désir. Je pense que c'est un désir très noble, mais qui précisément exige l'humilité dans la mise en scène, et que c'est ça qu'il a profondément raté, parce qu'en plus, il a donné l'impression de quelque chose de théâtral. Alors dans le théâtral, là, cette fois-ci, on entend d'un peu faux, d'un peu fabriqué. Et au fond, il n'a pas pris ce désir que moi, je crois sincère chez lui, noble, avec la part de narcissisme qu'il y a toujours dedans. Hein, faut pas rêver. Mais je pense qu'il a pris ce désir par le très mauvais bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé...
Oui, mais là, on a reproché exactement l'inverse à son prédécesseur. C'est-à-dire d'avoir péché par excès d'humilité.
J'en ai un peu marre de ces politiques, de ces présidents qui fonctionnent toujours par rapport à leur prédécesseur. Hollande a été obsédé par Sarkozy, vous avez vu le bien que ça lui a fait. Eh bien, Macron est obsédé par Hollande, ça lui fait le plus grand mal. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus, là. Je crois que ce qui manque, c'est des gens, des individus libres qui fonctionnent par eux-mêmes, qui ont les désirs les plus grands, les plus nobles, avec leur part de narcissisme. Je n'ai rien contre, mais qui sachent quoi en faire. C'est-à-dire surtout pas le mettre comme ça dans un théâtre. Si vous voulez, le Louvre, c'était à la limite du ridicule si ça ne suivait pas. Ça n'a pas tellement suivi. Je veux dire, l'affaire Benalla, et on n'en a pas du tout parlé, mais ça pose la question de la décision publique, au-delà même de la vertu. Il y a un problème de décision. Et je crois que les Français, c'est là que ça a cassé quand même. En juillet de l'année dernière, quelque chose de très important s'est cassé. Et donc, je n'ai rien contre ces désirs de grandeur, ni même leur mise en scène. Je crois qu'il faut juste faire très attention avec ça et prendre cette question par le bon bout. Et sa théâtralité a été horriblement contre-productive.
Si on pouvait donner un conseil à ceux qui exercent des fonctions politiques, Hélène Loyer, ce serait quoi? De ne pas trop en promettre?
Ouais, en tout cas, peut-être effectivement d'avoir dans le contenu ce sens de l'institution qu'on te demande, si ce n'est plus que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires qui en ont charge, alors que le personnel politique doit en avoir charge aussi. Et c'est bien ce que l'affaire Benalla effectivement a révélé, c'est-à-dire que au plus haut point, au sommet de l'État, finalement, l'institution, moi je dirais... Plus que la grandeur ou la dimension commune en politique, c'est le sens de l'institution. Et ça, on a vu qu'au plus haut sommet de l'État, on n'avait pas forcément ce sens de l'institution.
Et juste un tout dernier mot, Hélène Loyer, pour revenir à ce qu'on disait au début sur la séparation entre vie publique et vie privée. Quand on est, par exemple, au sommet de l'État, quand on exerce des fonctions ministérielles, qu'est-ce que ça signifie en termes de vie privée? Ça veut dire qu'il faut faire l'impasse dessus le temps que l'on est au pouvoir?
Écoutez, je pense que c'est un peu de dignité, quoi, tout simplement, d'être digne de la fonction qu'on occupe.
Hein. Mais ça veut dire
quoi? C'est-à-dire, oui, être un petit peu discret, au moins, pendant les quelques années, c'est quand même pas très long, les quelques années où on occupe une fonction. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire. Sinon, la dimension commune de la politique, elle est pas nette. Il faut que ce soit un moment spécial, même de la vie des personnes.
Mais c'est une véritable ascèse, là, que vous préconisez.
Mais
pour,
enfin, écoutez, l'ascèse, c'est l'exercice. En grec, ascèse, ça veut dire exercice. Eh ben, l'exercice du pouvoir, c'est un exercice. Il y a une ascèse politique, je le pense, comme il y a d'autres ascèses. Ça ne veut pas dire pour autant se priver de manger et de boire, mais ou de sexualité. Mais ça signifie qu'il y a une dignité de la fonction.
Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Hélène Loyer, Aude Lancelin et Géraldine Mulman. Discussion que vous pourrez réécouter sur notre site internet franceculture.fr, également la télécharger. Puis si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas, c'est également sur le site internet. Merci à l'équipe du Grain, à Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son depuis le Bel Air, le bar de Radio France, Nadège Antonini, Tahar Bouklifa et Cédric Châtelu. Je vous rappelle, j'ai déjà fait hier, mais que demain aura lieu à l'Odéon, au théâtre à Paris, l'enregistrement du prochain Esprit public. C'est donc demain, samedi, à 14h. Aux côtés d'Émilie Aubry, il y aura Christine Ockrente, Aurélie Filippetti, Thierry Pêche et Dominique Régnier. Sera question notamment du niveau de violence en France aujourd'hui et de la mobilisation autour des questions écologiques.